mode d'emploi.
Bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, animée aujourd'hui par une équipe de militants altermondialistes d'Attaque et du journal Le Piaf.
Et nous recevons ce soir Héloïse et Julien du RESOM, le réseau des études supérieures et d'aide aux migrants. Et nous allons avoir avec eux toute cette initiative de différents collectifs qui permettent de venir en aide à ceux qui veulent faire la reprise d'études dans le monde de l'étude supérieure. Mais nous allons attaquer, comme d'habitude, avec les chroniques d'actualité de Jean-Marc. Mais non, Jean-Marc n'étant pas là, nous allons devoir faire sans lui. Alors les chroniques seront peut-être un petit peu moins d'actualité, mais néanmoins Gaël va nous parler de quelque chose dont les médias ont parlé. C'est déjà de l'actualité, non ? C'est très exactement de décoder les décodeurs du journal Le Monde.
Oui, les décodeurs du Monde, ce sont, je cite, des vérifications factuelles, des explications et du contexte autour de l'actualité du moment. Et un des derniers décodeurs se pose la question, les mesures de la première année d'Emmanuel Macron avantagent-elles vraiment les plus riches ? Parce que bon, vous les gauchistes, vous répétez ça, que Macron c'est le président des riches. Mais qu'est-ce que vous en savez vraiment ? Alors heureusement, il y a des journalistes sérieux, d'un journal sérieux, qui analysent la question à la lumière des faits, rien que des faits. Alors le décodeur commence par lister les principales mesures favorables aux plus riches. Première mesure, la transformation de l'impôt sur la fortune, qui ne concerne plus que les biens immobiliers. Le coût pour l'État, c'est 3,3 milliards d'euros par an. Deuxième mesure, la flat tax sur les revenus du capital, c'est-à-dire un prélèvement forfaitaire unique de 30%, qui est très avantageux par rapport au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et la mesure coûtera 1,3 milliard d'euros par an, selon le gouvernement, et beaucoup plus selon certains économistes. Troisième mesure pour les riches, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Actuellement, le taux est de 28% si vous faites moins de 500 000 euros de bénéfices par an, 33% si vous faites plus. Et Macron veut mettre tout le monde à 28% d'ici 2020, puis passer à 25% d'ici 2022. Le coût estimé de la mesure, c'est 11 milliards d'euros par an, à partir de 2022, selon le gouvernement. Alors ça ne profite pas directement aux plus fortunés, mais ça peut en aider à engraisser les actionnaires. Et quatrième mesure, la suppression de l'exit tax en 2019. Alors l'exit tax, c'est une taxe qui visait à lutter contre l'évasion fiscale. L'idée, c'est que si vous aviez acheté pour 1 million d'actions et qui valent 2 millions quand vous vous exilez en Belgique pour payer moins d'impôts, bien, vous payez une taxe sur le 1 million de plus-value potentielle. Les recettes potentielles de cette taxe sont estimées à moins d'un milliard d'euros par an et selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ce serait en réalité 15 millions effectifs. Donc en tout, on est à au moins 15 milliards d'euros par an de cadeaux pour les très riches. Sachant que le budget de l'État, c'est autour de 300 milliards d'euros, c'est pas rien. Ensuite, le décodeur liste les cadeaux de notre bon président pour tout le monde, donc les riches et les pauvres. Premièrement, la baisse des cotisations salariales en échange d'une hausse de la CSG. Là, le coût est nul pour l'État. En gros, ce sont les 60% de retraités les plus aisés qui vont payer pour les salariés. Deuxième mesure, la suppression progressive de la taxe d'habitation qui concernera tout le monde en 2020. Là, le coût est de 18,3 milliards par an à partir de 2020. Donc, quand même, la moitié profitera aux 20% des ménages les plus riches. Et troisième mesure, la revalorisation des prestations sociales, c'est-à-dire une augmentation de 100 euros pour la prime d'activité, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Donc le bilan, c'est qu'il y a 15 milliards d'euros par an de cadeaux pour les plus riches et un peu moins de 20 milliards pour tout le monde, y compris les très riches. Donc jusque-là, le décodeur est plutôt honnête et résume assez bien les cadeaux. Ensuite, le décodeur cite une étude de janvier de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui découpe la population en 20 tranches de 5% selon les revenus et qui analyse combien chaque tranche va gagner ou va perdre. En 2018, les très riches, c'est-à-dire la dernière tranche, vont gagner 1,6% de pouvoir d'achat. Et tous les autres sont perdants, notamment les riches qui ne sont pas très riches et les 5% les plus pauvres. À partir de 2020, à part les riches pas très riches, c'est-à-dire la 18e et la 19e tranche, tout le monde gagne, autour de 1% pour la plupart des gens et autour de 2% pour les plus riches. La conclusion du décodeur, c'est la suivante. les arbitrages gouvernementaux apparaissent beaucoup plus égalitaires, dans le sens où ils favoriseront plutôt les ménages les moins aisés en proportion. Et le décodeur s'arrête là, en laissant l'impression que finalement, Macron favorise plus les riches, mais que quand même, tout le monde gagne un peu. Et le décodeur a juste oublié un petit détail, c'est que les gains indiqués sont un pourcentage. Et un gain de 1% sur votre SMIC, c'est pas pareil qu'un gain de 1% sur un revenu de 100 000 euros, par exemple. Et le décodeur n'a sans doute pas eu le temps de lire jusqu'au bout la note de l'OFCE, qui dit la chose suivante. À eux seuls, les 2% les plus riches capteraient 42% des gains à attendre de la mise en place de ces mesures. Je poursuis la citation de la note de l'OFCE. Dans le même temps, la hausse de la fiscalité indirecte va se poursuivre en 2019. Et cette hausse, elle a déjà amputé le pouvoir d'achat des ménages de 5 milliards d'euros en 2018. Et qui paye le plus les impôts indirects? Les plus pauvres. L'OFCE poursuit dans sa conclusion, oubliée par le journaliste du Monde, la volonté de réduction du déficit affichée par le gouvernement va conduire à financer ces mesures par une réduction structurelle de la dépense publique, forcément. Or, je poursuis, une part significative de la dépense publique bénéficie directement aux ménages, puisque 81% des dépenses des administrations publiques sont constituées de prestations et autres transferts, et de la rémunération des salariés issus de la sphère publique. Le revenu disponible brut des ménages est également complété par 344 milliards d'euros en transferts en nature des administrations, notamment dans la santé, le logement et l'éducation, des transferts extrêmement redistributifs. Une baisse de ces derniers aurait pour conséquence directe de creuser le déficit de redistribution. Donc la conclusion de l'étude de l'OFCE, ce n'est pas que les plus riches vont gagner 2% de plus alors que les autres vont gagner 1% de plus. La vraie conclusion, c'est que pendant que les riches auront encore plus de fric pour se payer les meilleures écoles privées et les meilleurs médecins à honoraires libres, l'école, la santé et tous les services publics continueront à se dégrader pour les classes moyennes et populaires. Alors quand on voit le décalage entre la prétention d'objectivité des décodeurs et cette présentation biaisée des faits, on se dit qu'il y a un problème au monde. Sans doute un poids trop important des actionnaires ou des recettes publicitaires, des raisons qui ont largement été démontrées par les critiques des médias, notamment Acrimed. Pourtant, d'après le dernier bilan de Reporters sans frontières, qu'est-ce qui menace la liberté de la presse en France? Est-ce la pression des actionnaires sur les journalistes? Est-ce la directive sur le secret des affaires? Et non, c'est bien pire que ça. C'est la violence verbale de Mélenchon. Et le Monde a même osé faire un décodeur sur le sujet. Sous le titre « La stratégie de haine des médias de Jean-Luc Mélenchon inquiète Reporters sans frontières ». Et là, le paragraphe de 1000 signes du rapport de RSF se transforme en une charge de 7000 signes. Alors les décodeurs du Monde, ce sont des faits, rien que des faits, mais surtout une certaine manière de les présenter.
Tout a été dit avec beaucoup de chiffres. C'est toi le décodeur du décodeur du décodeur du décodeur, c'est ça? Oui, sûrement. Alors il y a un autre fait d'actualité tout à fait brûlante, c'est que on est en mai 2018, et d'un mois de mai à l'autre, il se passe peut-être quelque chose.
D'un mai à l'autre, est-ce qu'il se passe effectivement quelque chose? Toute la question est là. Je pourrais la poser un peu brutalement. Est-ce que mai 18 va ressembler à mai 68? On est le 11 mai, ça n'en prend pas le chemin. J'ai envie de dire non. Alors, il n'y a pas de barricade dans le quartier latin. Bon, on a des occupations de fac. Il n'y a pas de grève générale. Il y a une grève perlée à la SNCF qui dure. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? On avait posé sur France Culture, voilà, la question à l'historien Benjamin Stora. Et il disait, il y a un contexte qui n'est pas le même. En 68, il y avait un syndicalisme fort, il y avait un PC puissant et structuré, il y avait des intellectuels de gauche, et il y avait un soutien populaire important pour les révoltés, étudiants ou ouvriers. Toutes choses qui sont un petit peu différentes aujourd'hui. Alors on pourrait discuter ça, on pourrait dire peut-être ce qui joue le rôle du PC aujourd'hui, c'est les insoumis, que le syndicalisme n'est pas complètement mort, que... il y a quand même un soutien, que quand on interroge certaines personnes qui nous disent la grève à la SNCF, ça fait un peu chier. Mais s'il y avait une grève générale, j'y participerais. Ça, c'est, j'ai entendu. J'ai trouvé ça assez marrant. Mais à côté de ça, on passe peut-être à côté de quelque chose de plus complexe, qui est un rapport à la violence, à l'insurrection, qui a profondément changé sur la légitimité de la violence et de l'insurrection, sur la légitimité des moyens qu'on utilise et sur la légitimité donc de ceux qui détiennent le pouvoir et de ceux qui justement sont dans la transgression, qui ne respectent pas ce pouvoir. Les événements de mai, quand on reprend la chronologie, ça démarre le 3 mai précisément. Il y a quelques centaines d'étudiants qui seront rassemblés à côté de la Sorbonne pour protester contre les poursuites qui ont été engagées contre des étudiants de Nanterre qui sont poursuivis à la fois au pénal et sur le plan administratif. Parmi ces étudiants, il y a Cohn Bendit. Et la tension monte assez vite. Et mai 68, on pourrait dire, ça démarre précisément le moment où un étudiant, et on ne sait pas très bien pourquoi, a pris un pavé et l'a balancé sur la gueule d'un flic. Ce qui se passe donc ce 3 mai-là. Et la réaction des CRS, elle ne se fait pas attendre. Il y a des arrestations, il y a des coups de matraque. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Si on a en tête ce qui s'est passé, par exemple, le 1er mai, c'est que les étudiants reviennent plus nombreux les jours suivants, qu'il y a des cortèges qui se mettent en place, des manifestations, des défilés. Et surtout que ces manifestations, en plus de devenir plus importantes, plus nombreuses, deviennent de plus en plus violentes. Il y a un recours à peu près systématique des étudiants à la violence. Ils jettent des pavés, ils utilisent des barres de fer, ils incendient des voitures, ils construisent des barricades. On oublie, en fait, d'une certaine manière, on a une espèce d'image d'Épinal de mai 68, on oublie la violence de mai 68. En termes actuels, ils se comportent comme des black blocs. Et vu d'aujourd'hui, ce qui est le plus surprenant dans cette affaire-là, c'est peut-être même pas tant la manière dont ils se comportent que la manière dont réagit l'opinion. Et alors là, je vais être un peu plus précis parce que l'opinion, ça veut rien dire. Surtout à l'époque, on faisait beaucoup moins de sondages qu'aujourd'hui. Ceux qui font l'opinion. Et notamment, si on regarde les médias, la manière dont les médias relaient les informations en mai 68. Alors, c'est surtout des radios, c'est pas tellement la télé. Et ces radios-là, on peut les classer en deux catégories. D'un côté, il y a l'ORTF. De l'autre côté, il y a Radio Luxembourg et surtout Europe 1. Et ces médias relaient à la fois la violence des étudiants et la violence policière. Et à peu près de la même manière. Donc, ce qui fait une énorme différence par rapport, par exemple, à ce qu'on a vu au 1er mai. Il y a des syndicats qui appellent à des manifestations de soutien aux étudiants. Donc, c'est les premiers événements dont je parlais, c'est le 3 mai. Le 10 mai, mot d'ordre de la CGT, de grève générale, en soutien, justement, aux étudiants face aux violences policières. Il y a une partie des Parisiens qui se mettent à soutenir spontanément les étudiants en révolte. C'est des CRS qui racontent, 50 ans après, qu'ils recevaient des pots de fleurs sur la tête et qui donc, quand ils chargeaient les étudiants, ils devaient faire attention. Il y a la gauche. Alors la gauche, elle va s'y mettre tout doucement. D'abord, c'est le PC, mais la grande affaire pour le PC à ce moment-là, c'est ce qui se passe en Tchéco. C'est pas ce qui se passe à Paris. C'est de savoir s'il faut soutenir le Parti communiste d'Union soviétique ou pas. C'est ça leur grande question. Mais quand même, ils se mettent aussi à soutenir les émeutiers et appeler à des manifestations. Et après, il y a l'autre gauche, celle de Mitterrand, qui se met également à soutenir. Et à la fin du mois de mai, on voit Pierre Mendès-France et Mitterrand qui disent « j'ai une vacance du pouvoir, on est prêt à le prendre, le pouvoir, il n'y a pas de problème, il y a la réunion de Charletti, etc. » Et puis, de manière d'abord dispersée, puis de plus en plus massive, la très très grande majorité des intellectuels français qui choisissent leur camp. Et le camp, c'est pas celui de l'ordre, c'est celui du désordre, c'est celui de la chienlit, c'est celui des étudiants. Des étudiants qui sont pas des gentils pacifistes. Il faut oublier Cohn Bendit, gentil qui va à la télé, etc. Ils sont très violents, les étudiants de 68. Beaucoup plus que les étudiants d'aujourd'hui. Il y a, en fait, ce qui se passe, c'est une bascule de la légitimité. La légitimité, elle est a priori normalement du côté de l'ordre. Et là, d'un coup, pendant un mois et demi à peu près, elle va basculer du côté des collectifs. Des collectifs qui n'ont a priori aucune légitimité. La plupart de ces collectifs sont autoproclamés. C'est des gens à la Cohn Bendit, comme ça, qui se rassemblent en disant « nous, on est le collectif machin » ou « on est le collectif truc ». Cette légitimité, elle va aussi du côté des organisations syndicales, des organisations partisanes, etc. Et là, on rentre dans quelque chose qui est un peu révolutionnaire. Est-ce que ça veut dire pour autant que la France de 68, c'est une France de gauchistes? Eh ben, pas du tout. C'est pas plus une France de gauchistes que la France de 2018 est une France de gauchistes. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu parce que il y a quand même deux éléments qu'il faut pas oublier. La plus grande manifestation de mai 68, elle a lieu à Paris. 1 million de personnes, c'est pour De Gaulle. C'est en soutien à De Gaulle. Il y a des élections, De Gaulle dissout l'Assemblée. Il y a des élections qui ont lieu. Les résultats, ils sont sans appel. C'est un raz-de-marée gaulliste. 43% pour De Gaulle et 20% pour un parti allié de centre droit. Donc 63% pour la droite et en faveur de De Gaulle. La gauche, elle recule fortement. Elle perd énormément de voix par rapport aux précédentes élections législatives. Autrement dit, ce qu'on voit au bout de un mois, en gros de chienlit, pour parler comme De Gaulle, c'est que le Parti de l'Ordre est beaucoup plus puissant encore en 68 que ne l'est la tentation du désordre ou la tendance au désordre. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bah, ce qu'on a vu avec la manif du 1er mai, moi j'y étais, donc ça m'a un peu marqué, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette chronique, c'est que tout le monde a condamné la violence des Black Blocs. Et à juste titre, et je fais partie des gens qui ont condamné cette violence-là. Mais ce qui est assez remarquable, c'est si on voit par exemple sur la réaction des médias, c'est que la violence policière et la violence qui existe réellement, elle est complètement effacée, elle est complètement négligée, elle est mise de côté, elle est cachée. Et on a le sentiment que toute action, qu'elle soit légale ou non, qu'elle soit violente ou non, aura toujours une légitimité précaire par rapport justement à la question de l'ordre. Et on n'est pas encore justement dans cette situation où pourrait naître quelque chose qui serait, où la légitimité basculerait du côté de ceux qui justement jettent des pavés ou en tout cas refusent d'obéir à certains principes légitimes d'ordre public.
Oui, sauf qu'on est bien d'accord que la violence des Black Blocs aujourd'hui est quand même d'une nature totalement différente de celle des étudiants et autres. Hein. Il n'y a pas eu que les étudiants en mai 68, par le nombre d'abord, parce que là, on avait quelques centaines d'individus. Et ensuite, en mai 68, c'était quelque chose de collectif. Et je crois que la violence qui pouvait se manifester l'était parce qu'il y avait un certain ras-le-bol de l'immobilisme politique, universitaire notamment, social. Enfin, il y avait quantité de choses. Mais c'était vraiment un mouvement extrêmement puissant, général, solidaire, et qui a grossi de plus en plus. Je crois que ce n'est pas tout à fait le même contexte aujourd'hui.
On est d'accord, c'est pas le même contexte. Mais violence, moi, la gradation dans la violence, je sais pas. Je sais pas si c'est.
C'est pas le même type de violence. Enfin, je veux dire, je ne sais pas combien il y a eu peut-être de vitrines en mai 68, de vitrines de banques ou choses comme ça, symboliques, du symbole du capitalisme qui ont volé en éclats. Les pavés s'envoyaient contre les CRS. Les grilles des arbres étaient arrachées ou des arbres parfois eux-mêmes pour faire des barricades et non pas pour aller casser les symboles du capitalisme. Je crois que c'est quand même pas tout à fait la même chose.
Alors, ok, ben, si tu veux, mais si on veut parler les chiffres, on a le bilan à la fin de mai-juin 68, c'est 5 morts, dont un policier. Non, 5. Dont un policier. Alors, la plupart de ces morts sont des morts accidentelles. Par exemple, le policier, il a été tué en étant renversé par un camion. Mais en fait, ce qui s'est passé, pourquoi il a été renversé par un camion, ça se passait à Lyon, c'était pas à Paris. C'est justement un, je sais même pas quel terme employer d'ailleurs, Black Bloc de l'époque, qui est monté dans un camion, qui l'a démarré, qui a bloqué, qui a mis une brique sur l'accélérateur et qui l'a envoyé contre les flics. Et il y a un commissaire qui n'a pas vu le camion arriver, pourtant c'était assez gros, et qui s'est retrouvé coincé entre le camion et la rambarde d'un pont. Et il est mort écrasé. Il y a quelques morts assez mystérieuses. Il y en a un qui est mort d'un coup de... qui a reçu une balle dans la tête. Et qui était plutôt apparemment d'extrême droite. Donc ça, c'est assez curieux. Les parents ont refusé, n'ont pas voulu que les médias en parlent, ont voulu garder ça secret, justement pour pas que ça profite aux révoltés. Voilà. Sinon, sur les blessés, on est à plusieurs milliers de blessés, si on prend l'ensemble des événements. À peu près moitié-moitié entre les émeutiers et les policiers.
Oui, mais ça ne contredit pas ce que je disais.
Ouais.
Sur les raisons de cette violence et leur nature.
Sur la destruction des éléments, bon, enfin, on n'a pas compté le nombre de voitures brûlées dans le quartier latin, mais c'est assez élevé. Voilà.
Alors nous arrêtons là ce débat violent entre Patrick et Alex. Alors Patrick est aussi, c'est un nouveau concept, notre dessinateur de radio. Il m'a fait passer un petit dessin qui est plutôt sur la chronique précédente qui parlait des mesures Macron. On y voit la tombe de Johnny Hallyday avec des notes de musique et une phrase qui semble sortir de la tombe et qui dit « Ah que je suis mort trop tôt pour bénéficier des mesures de Macron ». Ça semble être un petit peu triste. Alors on va écouter évidemment du Johnny Hallyday. Non. On va écouter Street Fighting Mind par les Rolling Stones.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, animée aujourd'hui par une équipe de militants altermondialistes d'Attaque et du journal Le Piaf.
Et nos invités sont ce soir Héloïse et Julien du RESOM. Le RESOM, c'est le Réseau Études Supérieures et Orientation des Migrants et des Exilés. Alors ils vont nous expliquer en détail ce qu'il y a dans ce RESOM, et pas seulement dans ce RESOM, parce que c'est un collectif qui regroupe plusieurs collectifs plutôt locaux, c'est-à-dire que ça rassemble plusieurs associations basées dans des universités et des grands établissements d'enseignement supérieur. Alors, leur objectif, ils vont nous l'expliquer, c'est d'accueillir des migrants et de leur permettre de faire de la reprise d'études. Imaginez-vous exilé de votre pays, d'arriver dans un autre pays où vous n'avez peut-être même pas la langue, après des drames qui les ont chassés de chez vous, qui vous ont chassés de vos lieux d'études, qui vous ont fait peut-être passer plusieurs années d'errance. Ben, le cerveau est un peu rouillé. Alors heureusement, il y a des gens qui sont prêts à les aider. Alors, ça fait pas très longtemps que ces réseaux existent. Ils ont apparu, on en parlera tout à l'heure, dans différents établissements. Mais quelle est la nouveauté? Pourquoi ces réseaux, finalement, sont mis à exister il y a déjà 3-4 ans?
Ben, ça, c'est une très bonne question. Ça nous ramène un peu à la question de est-ce que il y a vraiment des personnes exilées qui ont envie de reprendre leurs études, et tout ça nous ramène un peu en 2016. Alors c'était les débuts du RESOM, et on s'est dit il faut aller voir le ministère de l'enseignement supérieur, et puis il faut leur expliquer que ben oui, il y a des personnes exilées. On utilise le terme exilé pour englober à la fois les personnes réfugiées, mais aussi les personnes qui demandent l'asile, et les personnes qui sont déboutées, qui représentent un grand nombre. Et à ce moment-là, quand on était à Réunion pour la première fois, ce qu'on nous a rétorqué, c'était on va quand même pas faire une politique publique pour trois personnes qui ont envie de reprendre leurs études. Donc il y avait vraiment ce sentiment au sein de l'institution de les personnes réfugiées, c'est des gens qui ont pas de diplôme. Qui n'ont pas fait d'études dans leur pays. Maintenant, 2 ans plus tard, le discours a complètement changé au ministère, parce que ils se sont rendus compte que, en effet, il y avait un nombre important de personnes qui souhaitaient reprendre leurs études. Il y avait une enquête du ministère de l'Intérieur qui, déjà en 2010, disait ça représentait 14% des personnes réfugiées. Il y avait 14% des personnes réfugiées qui avaient un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc déjà, ils auraient pu à ce moment-là être au courant de cette demande, et du coup là l'effet est complètement inverse, c'est-à-dire au sein des universités qui mettent parfois en place des programmes spécifiques, on en reparlera tout à l'heure, ils cachent l'information parce qu'ils ont peur qu'il y ait trop de personnes qui veuillent revenir dans le programme. Donc ça montre bien qu'on a en 2 ans changé d'état d'esprit, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, et c'est pour ça que le réseau existe, et on continue nos actions pour faire connaître ça.
Et donc, ça veut dire qu'on peut reprendre ses études en France, on peut arriver de n'importe où, là, et puis, pof, se retrouver dans un bon amphi qui sent l'encaustique, la poussière, non, je sais pas.
Alors oui, c'est possible en théorie. En fait, dans le code de l'éducation, il n'y a rien qui permet de refuser à une personne l'accès à un établissement d'enseignement supérieur par son statut administratif. Les seuls critères, c'est la capacité des programmes académiques et le niveau académique. Donc en principe, toute personne, même si elle n'a pas de papier, peut reprendre ses études. Ça rentre pas dans les prérogatives de l'université de vérifier le statut des personnes. Donc en théorie, oui, mais en fait, en pratique, c'est super compliqué. Déjà parce que les personnes, à aucun moment, quand une personne exilée arrive en France, on lui dit qu'ils ont la possibilité de faire des études, qu'ils ont le droit. Et donc de leur côté, il y a une ignorance, il y a plein de gens qui arrivent en disant « mais moi j'ai pas le droit parce que je suis en demande d'asile, etc. » alors que c'est faux. Et du côté des universités et des administrations, on ne sait pas toujours si c'est de l'ignorance de cette loi ou de la mauvaise volonté, mais il y a plein de personnes qui arrivent pour s'inscrire et qui se voient opposer des refus. On leur dit « non, vous pouvez pas, vous êtes en demande d'asile, etc. » alors que, encore une fois, c'est faux.
Donc il y a des cas d'administratif. On peut donner des exemples parce qu'on imagine des gens qui ont pas le bac, évidemment, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas le bac. Comment, quelle est la porte d'entrée administrative ou les cadres qui peuvent les accueillir?
Donc il y a des personnes qui ont des diplômes équivalents du bac, il y a des procédures du gouvernement pour faire des équivalences de diplômes qui permettent d'accéder aux établissements. Et après, bon, pour les personnes qui n'ont pas le bac, en principe, il faut aller dans un lycée ou un lycée pour adultes, etc. Donc c'est des procédures différentes, on va dire, par rapport aux personnes qui veulent accéder à l'enseignement supérieur. Nous, on voit beaucoup de personnes qui ont des diplômes équivalents au bac et qui veulent reprendre des études.
Oui, vraiment, par rapport à ça, il y a déjà un nombre conséquent de personnes qui ont déjà des diplômes, des licences, des masters, parfois des gens qui font des thèses. Et en fait, il y a déjà un gros problème, c'est réactiver le droit à l'éducation. C'est tout ça. Il y a un certain nombre de personnes qui ont envie de, une fois ici, passer le bac. Mais vraiment, je pense qu'on essaie de se concentrer aussi sur ça. C'est essayer de supprimer ce fait que, comme l'a dit Héloïse, il y a une sélection par le manque d'informations. Il y a une sélection au guichet parce que les personnes au guichet parfois ne donne pas la bonne information. Puis après, il y a aussi une sélection sur le dossier. Parce que, quelle que soit la formation envisagée, il y a une sélection pour les personnes exilées. Et donc, du coup, ce triptyque de sélection fait qu'en fait, il y a très peu de possibilités ouvertes à ces personnes.
Donc, il y a des cadres. En tout cas, ils peuvent même rentrer dans les boîtes classiques de licence, de master, suivant leur niveau. Mais c'est surtout la porte administrative qui semble difficile à forcer. Et alors, la question, c'est est-ce qu'administrativement, il y a des gens qui aident à entrouvrir cette porte? Quels sont les moyens que vous avez pu mettre en place? Quels sont les moyens qui peuvent leur donner la possibilité d'ouvrir cette porte?
Comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas trop de la part des universités s'il y a de la mauvaise volonté ou de l'ignorance. Parfois, le fait d'accompagner les personnes, d'aller avec elles dans les services d'inscription et de dire « mais si, en fait, ils ont le droit de s'inscrire, ça permet de s'inscrire ». Souvent, le fait d'être accompagné par quelqu'un qui connaît le système et qui sait quand la personne en face est en train de dire n'importe quoi, ça aide pour les inscriptions. Nous, au réseau, on aide beaucoup les personnes à faire les procédures d'inscription. On écrit aux établissements pour leur demander des informations, pour dire que les personnes ont le droit de s'inscrire. Etc. Donc ça, c'est pour le point de vue administratif. Après, nous, on n'a pas vraiment de main sur le fait qu'il existe des procédures spécifiques pour les personnes qui sont en demande d'asile ou réfugiées, qui de fait sont systématiquement sélectives et du coup les disqualifient. Par exemple, si les universités, comme c'est des procédures sélectives, ont le droit d'opposer un refus en disant il n'a pas le niveau académique. On a vu des gens se voir opposer un niveau académique alors qu'elles étaient 10 fois plus qualifiées que les formations pour lesquelles elles postulaient. Et évidemment, on n'a pas vraiment de possibilité de recours là-dessus. Donc après, il faut se trouver face à des personnes de bonne volonté. En général, c'est ça qui marche. C'est de rencontrer les personnes qui ont une sensibilité politique qui convient. En fait, c'est comme ça que ça se passe en pratique. On rencontre des personnes qui, du coup, comprennent la situation, aident et... À l'inverse, quand on se retrouve face à une personne qui n'est pas du tout de bonne volonté pour aider, on est souvent sans
recours. Donc c'est vraiment quelque chose d'humain finalement. On voit l'université non pas comme un monolithe, mais comme un ensemble de personnes et il y a plusieurs façons de permettre d'ouvrir cette porte. Et alors de l'autre bout de l'échelle de ce réseau humain, il y a l'étudiant, enfin l'exilé qui arrive. Et est-ce que c'est facile humainement pour le migrant de reprendre des études? Est-ce que finalement, une fois qu'on lui a donné une porte d'entrée, il va y arriver?
Pour l'instant, sur cette question-là, on n'a pas énormément de recul parce que du coup, c'est assez récent. Donc ça se verra, je pense, sur la durée. Mais de toute évidence, il y a un certain nombre d'obstacles. Donc comme on l'a dit, il y a l'obstacle déjà à l'entrée et tout au long de son parcours, il y a un certain nombre d'obstacles. Il y en a beaucoup qui sont partagés avec les autres étudiants qui ont des difficultés parce que ils n'ont pas les ressources financières suffisantes, donc ils doivent travailler à côté. C'est quelque chose qui du coup se retrouve pour les personnes exilées qui sont parfois, par exemple, les réfugiés au RSA. et qui perdent le RSA en devenant étudiants. Ils n'ont plus qu'une bourse qui suffit pas pour vivre convenablement. Donc tous ces problèmes-là se retrouvent pour les personnes exilées. Et ensuite, pour un grand nombre de personnes exilées, il y a le problème de la langue, évidemment. C'est un niveau très important qu'on demande aux personnes d'avoir. Et c'est pas facile d'atteindre ce niveau-là. Étant donné le peu de cours de français qu'on a à proposer, enfin que l'État a à proposer aux personnes. Par exemple, il faut savoir que pendant la demande d'asile, il n'y a aucun cours de français qui est proposé, sachant que la demande d'asile peut, dans certains cas, durer plusieurs années. Donc là, il y a vraiment une faiblesse de ce côté-là. Et il y a aussi des différences culturelles entre les manières d'enseigner en France et puis les manières d'enseigner dans les pays. Donc là, il y a vraiment un besoin qui est en train d'être partiellement comblé, on en parlera, de permettre aux gens d'être remis à niveau à la fois linguistiquement et aussi sur les compétences plus techniques pour pouvoir reprendre leurs études.
Il y a même, je crois, dans le cadre des universités ou de certains lycées, des diplômes d'équivalence du bac que tout un chacun peut postuler pour rentrer dedans, y compris des personnes en rupture d'études ou d'un certain âge qui veulent valider des acquis de la vie par un diplôme de DEAU, de diplôme de reprise d'équivalence des acquis universitaires, dire pour l'entrée au bac. Donc ça, c'est aussi une piste qu'on pourrait proposer naturellement à des migrants qui auraient un niveau scolaire, mais c'est pas quelque chose de systématique, loin de là.
En fait, c'est pas vraiment des programmes qui sont faits pour eux, dans le sens où déjà ils sont entièrement en français, ils prennent pas du tout en compte le fait qu'il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes avec la langue ou des problèmes avec s'adapter à une façon d'enseigner différente, à une culture différente. Et par ailleurs, c'est des diplômes universitaires, donc c'est payant, c'est souvent très cher, il n'y a pas forcément de possibilité d'exonération. Et après, il y a aussi des conditions d'admission. Donc, en fait, comme les DU, les facs font un peu ce qu'elles veulent. Donc, par exemple, ils peuvent décider qu'ils prennent que des personnes qui ont une protection, qui sont réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. Donc, ça pourrait être une solution, mais il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui demeurent. C'est pour ça que nous, on plaide pour le fait de faire des programmes spécifiques.
Alors, on va justement voir ce que vous avez fait pour permettre à ce que ces programme spécifique puisse un jour exister, puis aussi comment préparer les migrants, les exilés à ça. Eh bien, on va écouter Tikenja Fakoli, Ouvrez les frontières.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, animée aujourd'hui par une équipe de militants altermondialistes d'Attaque et du journal Le Piaf.
Et nous reprenons notre interview avec Héloïse et Julien du RÉSOM, le réseau études supérieures et orientation des migrants et des exilés. Alors, on a parlé dans un premier temps du cadre, finalement. Il y a possibilité pour toute personne sur le territoire français qui en aurait le niveau d'intégrer des études supérieures, même après avoir traversé 25 frontières et subi parfois des années de galères les plus terribles qu'on imagine. Et ils arrivent dans un établissement. Qui vient les aider? Ce n'est pas forcément l'établissement, qui d'ailleurs, accessoirement, n'a pas forcément les moyens humains et financiers pour venir s'occuper d'autre chose que de ses missions du quotidien. Mais il y a des collectifs et des associations d'aide aux migrants qui se sont créés dans certains lieux et typiquement dans des grands établissements comme l'École normale supérieure, les Ponts et Chaussées ou Paris 1, donc des facs du centre de Paris, et aussi évidemment Paris 8 qui a toujours eu une énorme aptitude à accueillir l'autre et en typiquement des migrants. Alors vous pouvez donner des exemples par exemple dans cette liste de collectifs locaux qui se sont créés de leurs actions?
Oui. Alors du coup, bon, c'est vrai qu'il y a eu en fait, bon, c'est pas seulement évidemment la faute des établissements, mais du fait qu'il n'y a eu aucune mesure prise par l'État du coup pour s'occuper de ces personnes qui voulaient reprendre des études, il y a eu une organisation de la base, quoi, de militants, de bénévoles qui ont essayé de mettre en place des programmes de reprise d'études. Donc effectivement, au début à l'École normale supérieure, c'est là qu'il y a eu un des premiers programmes. Donc c'est là, en l'occurrence, c'est un programme qui est uniquement porté par des étudiants bénévoles. Il y a aussi des enseignants bénévoles. et où ils font des cours de français essentiellement. Il y a des programmes, donc il y a pas seulement à Paris, il y a des programmes dans des facs, dans des écoles, et ça s'est développé dans toute la France. Il y a des programmes très variés, il y a des programmes qui sont... bon, évidemment, le point commun, c'est le français, parce que c'est ce qui est rédhibitoire, quoi, pas avoir le français pour prendre des études en France.
C'est des aides à la reprise d'études, donc, où véritablement, les étudiants et les enseignants bénévoles deviennent enseignants pour ces migrants.
Voilà, donc en fait, il y a des schémas différents. Il y a des, parfois, c'est soutenu par l'institution, donc il met en place un DU de FLE, de français langue étrangère. Pour,
un DU, un diplôme universitaire spécifique à un établissement qui n'est pas diplôme au niveau national, mais qui donne quand même un beau tampon sur un papier.
Voilà, qui permet d'avoir le niveau de français pour entrer à la fac. Donc, ils sont plus financés parfois par la région, par des fonds privés, c'est très variable. Et il y a des programmes qui sont plus, donc, comme ce que j'ai dit à l'ENS, mais aussi dans certaines facs, strictement bénévoles, où ça va être des enseignants ou des étudiants qui mettent en place des cours bénévoles, de l'aide pour la reprise d'études, éventuellement la possibilité d'assister à certains cours des établissements pour se remettre dans le bain des études. Et c'est essentiellement le point commun. Il y a des programmes qui sont uniquement de français.
Et du coup, enfin, la volonté aussi de tous les programmes qui sont des programmes militants au sein des institutions, c'était de se dire comment on fait pour s'accaparer les ressources de l'institution pour les mettre à profit à d'autres personnes. Donc par exemple, l'exemple du premier programme à l'École normale supérieure, c'est assez symbolique parce que c'est le temple de la sélection, très fermé. Et donc l'idée, c'était, il y a des salles, il y a des gens qui peuvent enseigner le français, il y a d'autres ressources, la cafétéria, le gymnase. C'était comment on fait pour mobiliser ce genre de choses pour pouvoir ouvrir véritablement à d'autres personnes. Donc du coup, c'était les exilés, ces lieux-là. Donc du coup, ça s'est traduit par le français, comme tu l'as dit, mais c'était aussi une volonté de créer des espaces de solidarité et de résistance, donc donner les moyens aussi aux élèves qui venaient apprendre le français de construire une pensée politique et reprendre des discussions sur des thèmes politiques. Et aussi, il y a une tendance à invisibiliser les personnes exilées, donc on les met vers le canal de Saint-Denis au nord de Paris pour pas qu'on les voit. Et donc il y avait aussi cette volonté de ramener ce sujet dans nos lieux d'études, effectivement en permettant à des personnes exilées de pouvoir profiter de ces ressources-là.
Donc ça, c'est à l'ENS, donc on parle quand même de Rudulme, hein, ça n'a pas été dit, mais c'est vraiment l'École normale supérieure en plein milieu du 5e arrondissement, cette porte ouverte d'une élite de la nation vers les migrants, c'est quand même plus qu'un beau symbole, c'est carrément quelque chose qui fait plaisir à imaginer au quotidien. Et donc ça, c'était un premier établissement il y a déjà 3 ans. Et depuis, il y en a eu d'autres, on a dit, dans d'autres lycées en France. On peut me parler de lycées privés qui font de l'accueil aussi, avec une idée, par exemple, des lycées catholiques qui ouvrent la porte à des cours de français ouverts à tout migrant. Donc, c'est pas simplement les établissements publics et des bénévoles du public. Hein, il y en a aussi de différents cas. Donc, c'est très beau à imaginer encore. Et il y a d'autres exemples concrets de programmes. Est-ce qu'on peut entrer même dans les détails de ce que peut être un programme d'enseignement? Donc on a parlé de FLE, enfin, français langue étrangère. Est-ce qu'il y a d'autres cadres d'enseignement qu'on peut être tenté?
Alors, donc il y a, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, ça repose beaucoup sur du français langue étrangère. Mais par exemple, à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales, il y a un programme qui a été porté par des enseignants, par l'établissement, qui permet aux personnes de construire un projet de recherche en sciences sociales et vraiment de suivre le parcours de l'école. À l'École des Ponts, il y a eu un programme qui a été mis en place qui repose aussi beaucoup sur du français, mais donc sur la possibilité de suivre des cours en étant accompagné par des étudiants des cours de l'école. Il y a un projet de lancer un programme à Jussieu, à Pierre et Marie Couru, qui permettrait de faire une passerelle vers la reprise d'études en sciences, donc qui comporterait du français, mais aussi du français objectif scientifique, des tutorats scientifiques, des choses comme ça, des plus disciplinaires. Et je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, évidemment, l'objectif de tous ces programmes, même si c'est pas du tout le cas dans beaucoup d'établissements, c'est de faire porter ces programmes par les établissements, et que ce soit, enfin qu'il y ait un engagement du service public par la voie des établissements. Et évidemment, le mieux ce serait que l'État investisse là-dedans, mais l'objectif c'est pas que ce soit des cours bénévoles. Et de ce point de vue, à l'ENS, il y a une limite, quoi. C'est super qu'il y ait cet accueil, qu'il y ait cette ouverture des établissements, mais on n'en est pas à un véritable soutien financier des institutions et donc un service public de ce point de vue-là.
Alors, nous avons inauguré le concept du dessinateur de radio, et notre dessinateur radio nous présente une dame d'un certain âge. Certains l'appelleraient Mégère, ou d'autres auraient des mots certainement beaucoup plus méchants que celui que j'ai employé.
Madame Michu, peut-être.
Madame Michu, par exemple, oui. Roberte, très certainement. Et elle dit, et pourquoi ils vont pas migrer chez Trump pour voir comment il va les accueillir, lui? Voilà, nous passons de commentaires. On reprend le fil de l'interview. On était en train donc de parler de différents intervenants, de lieux d'intervention pour différentes matières. On voit bien les lieux d'ailleurs. Hein, sur que l'HESS ne veut pas forcément faire des cours de biochimie, mais Jussieu peut se permettre et d'ailleurs avoir sur place des étudiants, des doctorants, des personnels qui sont peut-être prêts à mettre du temps pour cette aide à celui qui vient les voir. Donc ça, c'est aussi un problème, c'est comment est-ce que le migrant, l'exilé, vient les voir. Et il a donc été mis en place depuis 2 ans un réseau, c'est celui-là que vous représentez là aujourd'hui, le RESOM, Réseau d'études supérieures et orientation des migrants et des exilés, qui permet de chapeauter ces collectifs et qui sert, entre autres, de porte d'entrée pour un migrant qui chercherait où s'orienter.
Oui, du coup, on s'est rendu compte que les associations avaient des problématiques communes. Donc l'idée, c'était de traiter ensemble ces problématiques communes, de proposer une porte d'entrée commune, c'est-à-dire diffuser des questionnaires pour savoir qui voudrait reprendre des études, pour pouvoir avoir accès à recenser les personnes qui voudraient reprendre leurs études. Il y a aussi on a créé une permanence qui existe depuis septembre 2016, si je dis pas de bêtises, septembre 2016, oui. Où n'importe qui peut, donc c'est à la maison des initiatives étudiantes, c'est à côté de Bastille, 50 rue des Tournelles,
le samedi matin de 10h à 13h.
Voilà, on aide les personnes exilées qui voudraient reprendre leurs études. Donc ça peut aller de rédaction de CV, de lettre de motivation, faire ensemble la procédure sur Internet. Voilà, donc ça permet aussi d'activer les droits des personnes. Et voilà, et aussi, enfin, et c'est quand même peut-être le plus important, c'est de porter une voix politique commune et de faire pression sur les institutions pour une prise en charge effective du droit à l'enseignement et droit à la langue aussi. Nos actions, c'est comme on est dans des écoles, les actions qu'on a pu mener, c'était auprès des personnes qui avaient déjà des diplômes, parce que c'était des institutions qu'on arrivait à mobiliser. Mais dans le plaidoyer politique, ce qu'on demande, c'est des cours de français pour tout le monde dès la demande d'asile. On se limite pas quelques personnes qui ont des diplômes.
Alors ça fonctionne, on peut le dire, même si ça fait que 2-3 ans que c'est en place. Les gens sont aidés, prennent aussi confiance en eux, j'imagine, à retrouver pied dans les sciences, dans les lettres, et à voir si vous avez des exemples de vie, si vous avez peut-être une idée d'un parcours de quelqu'un qui, grâce à ça, a pu sortir de son quotidien.
Bon, ça répond pas tout à fait à la question, mais c'est vrai que parfois, quand on intervient dans des événements avec d'autres associations qui traitent peut-être de sujets beaucoup plus cruciaux, un peu de questions de vie ou de mort, qui interviennent dans les CRA ou dans les centres de rétention administrative, des choses comme ça, on a l'impression de faire quelque chose qui a l'air un peu accessoire, quoi, de se dire, en fait, bon, reprend tes études, finalement. Mais en fait, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui représente déjà la possibilité de faire quelque chose, de se projeter dans un projet d'avenir, d'avoir une vie sociale aussi. Enfin, c'est vraiment en fait quelque chose qui est à la limite du vital, quoi. Donc ça répond pas vraiment à la question. Mais...
Et on peut prendre un autre exemple, que je crois que vous aimez bien en parler, c'est qu'il y a quelques établissements privés même qui se servent de cette existence de migrants prêts à travailler pour des grands groupes industriels. Et ça devient même un marché du migrant. Et ce savant, c'est ça ?
Oui, c'est vrai qu'on aime bien en parler. C'était juste que dans l'idée, Nous, on constatait qu'il y avait un manque de moyens de la part de l'État et donc du coup un abandon du service public. Et les solutions qu'on avait à proposer, c'était le militantisme et faire bouger nos facs et faire bouger nos écoles. Mais dans le même temps, ce qu'on constate et qu'on déplore, c'est que il y a des personnes qui font le même constat que nous, mais qui se disent bah tiens, du coup, c'est un moyen de faire du business de l'économie sociale et solidaire, comme on l'appelle si bien. Et donc du coup, il y a des personnes qui, une association qui s'appelle Wintergrate, qu'on pourrait qualifier plutôt de start-up sociale en fait, qui propose des cours de français également dans des écoles de type école de commerce ou Sciences Po Paris ou Sciences Po Lille. Et donc du coup c'est super bien, il y a au moins des personnes qui peuvent continuer leurs études, mais le problème c'est que c'est couplé à cela, ils ont aussi une espèce de site internet qui s'appelle Wiro. Et donc du coup je vais juste citer parce que c'est Wiro talent d'ailleurs, la première solution pour recruter des talents que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc du coup ils se qualifient comme chasseurs de têtes de réfugiés pour permettre aux entreprises, donc par exemple il y a le cas de L'Oréal, de diversifier leur sourcing. Donc on va donner de la valeur aux réfugiés parce qu'il est en soi réfugié, donc les entreprises ensuite vont pouvoir se vanter d'employer des réfugiés. Donc là on tombe vraiment dans le travers de l'État fait pas son job de permettre les cours de français et tout, et donc du coup on va par ce moyen là créer de la valeur et s'enrichir. Du coup juste je le dis comme ça parce que ça représente c'est assez significatif, mais il y a une offre d'emploi actuellement pour devenir directeur adjoint de l'association Wintergrate, payé 45 000 euros brut l'année. Donc voilà, si vous êtes tenté. Je crois qu'ils disent compétences en finance et je ne sais plus quoi conseiller. Voilà.
Il y a juste un mot humain, s'abstenir, non ? C'est
possible. Ouais, peut-être. Ouais.
Mais sachant en plus que leur programme, c'est un programme qui s'adresse uniquement aux personnes qui sont réfugiées statutaires, donc qui bénéficient de la protection, d'une potentielle de protection, et évidemment qui ont un projet, qui sont des personnes à haut potentiel. Enfin, c'est un truc assez macroniste on est de. Les premiers cordes.
Non, on va pas terminer votre intervention là-dessus. On peut rappeler quand même que vous n'êtes pas ce genre de machine. Vous êtes bénévole, militant, comme beaucoup de membres du RESOM, donc le réseau qui permet d'aider aux migrants à la reprise d'études supérieures. Vous avez rappelé sur Paris les dates où des migrants peuvent rejoindre. C'est le samedi matin, quai des Tournelles.
50 rue des Tournelles.
50 rue des Tournelles.
La maison des initiatives
étudiantes. Et il y a possibilité aussi, évidemment, pour toute envie d'être bénévole, il y a des besoins. Venez rejoindre le RESOM, allons sur le site, il y a des contacts, des heures de rendez-vous et tout ça. Eh bien, on arrête là. Non, un petit dessin de fin. On a donc deux petites personnes âgées, on va dire un couple charmant avec chapeau à fleurs. La dame dit « c'est beau, c'est jeune qui aide bénévolement les immigrés ». Et un vieux qui répond « oui, ça change, des gauchistes de mai 68 ». Je crois tout n'a pas été compris sur cette émission. Il faut qu'on la refasse. Alors, plutôt que la refaire, on va vous proposer d'autres rendez-vous. Et c'est l'heure de l'agenda, Alex, qui n'était pas prêt. Alors, est-ce que...
Oui, il est prêt. Donc, demain, à 15h, Place de la République, manifestation en soutien à la marche du retour en Palestine. Campagne 2018, le temps de la Palestine.
Lundi 14 mai, à la gare de l'Est à 13h30, mais partout en France, je pense aussi, une journée sans cheminots, pas d'agents SNCF dans les gares, et les cheminots appellent tous les travailleurs à leur apporter un soutien dans cette lutte contre Macron.
Mardi 15 mai à 12h, devant le ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, métro Bercy, rassemblement unitaire de la fonction publique, ensemble et dans l'unité la plus large, disons non à la précarité, à la vie.
Mardi 15 mai aussi, mais à 13h, et l'esplanade des Invalides, avant la marée populaire, la marée blanche, pour manifester pour le secteur de la santé et pour plus de financement pour la santé.
Mercredi 16 mai, on ne sait pas où et on ne sait pas à quelle heure, les organisations syndicales de l'éducation et la coordination nationale des universités appellent à se mobiliser, appellent à la grève illimitée jusqu'au retrait de la loi Or et à l'arrêt de la répression policière dans les universités.
Et on revient mardi 15 mai à 20h au foyer de Grenelle sur le thème de la santé, inégalité, crise de l'hôpital public. Il y aura un débat organisé par Attac Paris 15 et la LDH Paris 15 avec le vu au travers du prisme des inégalités de Philippe Laville qui fait partie du groupe Santé Bioéthique de la Ligue des Droits de l'Homme.
Jeudi 17 mai à 19h au lieu dit 6 rue Sorbier, un débat sur et si on libérait le travail avec Thomas Coutreau, Alexis Cuquier, Pascal Molinier et Sidi Mohamed Barkat.
On accélère l'agenda.
Jeudi 17 mai, un débat sur l'eau, bien commun aux ressources privées. C'est à 19h30 au centre Jean Lussat, 5 places du marché à Montreuil.
Samedi 19 mai, à la mairie du 2e, 8 rue de la Banque à Paris, l'avenir avec la décroissance, de 14h à 20h, débat et table ronde.
Samedi 19 mai à 16h, métro Château-Rouge, fête des luttes du 17e et 18e arrondissement. Ce sera chouette, il y aura de la musique, des interventions et une buvette.
Mardi 22 mai à 13h, place d'Italie, manifestation et grève de la fonction publique contre le projet de suppression de 120 000 emplois et le recours accru aux contrats qui dégraderont les conditions de travail des agents.
Allez, on passe directement au samedi 26 mai, le grand
samedi
rendez-vous.
Samedi 26 mai, partout en France, une manifestation unitaire, marée populaire pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité, appelée par plein de syndicats, d'organisations et de partis.
Et n'oubliez pas le soir de rejoindre la fête de fréquence Paris Pluriel, qui est aussi le samedi 26 mai. Et Patrick termine par le dimanche 27 mai au Triangle de Gonesse.
Près de la ferme de la Patte d'Oie à Gonesse, non à Europa City. Fête des terres de Gonesse, sauvons les terres agricoles de 10h à 18h.
Alors on a terminé, on remercie tous les intervenants, Héloïse et Julien, nos invités au nom du Résum, Alex Gaël à la chronique, notre dessinateur de radio Patrick, à la technique nous avions Ludo et son stagiaire Gilles, et nous finissons par écouter le Cirque Plume, Tempus Fugit. Thank you.